Et Matin Famille se poursuit avec vous également sur Média1.com et sur notre application Média Radio. Merci à vous de votre fidélité. Je le disais donc en tout début d'émission, on fait un zoom ce matin également sur cette maladie qui est considérée comme la première cause de décès par cancer. On parle du cancer du poumon. Alors des premiers signes jusqu'au traitement, on en parle avec un professeur en oncologie, professeur Ali Tahri. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes professeur en oncologie, je le disais. D'abord, vous, en tant que professeur, en tant que spécialiste en oncologie, comment pourriez-vous définir le cancer du poumon?
Alors, le cancer du poumon, malheureusement, c'est une pathologie qui est fréquente et qui est malheureusement fatale. C'est-à-dire, c'est un cancer que, malgré les avancées dans la thérapeutique, reste un cancer qui est très méchant,
oui,
et d'une évolution qui est défavorable. C'est un cancer qui touche les deux sexes, l'homme et la femme. Et ce qui me revient, c'est-à-dire d'emblée, c'est le cancer le plus mortel, mais le plus évitable parce qu'il est intimement lié, bien évidemment, au tabagisme. On n'en répétera jamais assez.
Intimement lié au tabagisme. Donc, quand on parle de facteurs de risque, on pense forcément au tabagisme. C'est bien cela, professeur?
Effectivement, il y a 90% des cancers bronchiques sont chez des tabagiques et des gros tabagiques. Il y en a d'autres facteurs de risque, comme des facteurs professionnels, des facteurs atmosphériques, les radiations ionisantes, mais ça reste des exceptions assez rares, moins de 10%. Mais le tabac, c'est le facteur de risque majeur de ce fléau, qui est le cancer bronchique.
Alors, quels seraient ces premiers signes qui devraient normalement alerter la personne atteinte?
Le problème, c'est que, en fait, les premiers signes, surtout encore une fois chez les tabagiques, c'est des signes assez bâtards.
Oui.
Assez, c'est-à-dire, banaux. On a une toux matinale.
Oui.
Et malheureusement, les gros tabagiques ont toujours cette toux. On a parfois des douleurs thoraciques. Ça, c'est les deux premiers signes qui apparaissent. Mais avec l'évolution de la maladie, on a une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté à respirer. Au début, c'est à l'effort. Quand on monte les escaliers, on fait un effort assez intense. Et parfois, à la suite, ça devient une dyspnée au repos. On a l'hémoptysie, c'est-à-dire une toux sanguinolente, c'est-à-dire qu'on a du crash, des crachats ou une émission de sang, c'est-à-dire dans la salive après la toux. Ça s'appelle une hémoptysie. Tout ça, c'est des signes qui évoluent au fur et à mesure jusqu'à arriver à des signes avancés de douleur osseuse en cas de métastase osseuse, de douleur au niveau, c'est-à-dire de céphalée, avec des vomissements quand on a une atteinte cérébrale et autres signes.
Professeur Ali Tahri, est-ce qu'on pourrait parler de facteurs génético-héréditaires, donc, quand on parle de cancer du poumon?
En fait, il y a quelques familles, c'est très rare, on a des familles à cancer bronchique, mais c'est rarissime. C'est-à-dire, c'est vraiment des cas exceptionnels.
Oui.
J'en ai vu une ou deux dans toute ma carrière, mais ça ne court pas les rues. C'est essentiellement, en fait, comme on a dit, le tabagisme qui est le facteur de risque majeur de ce cancer.
D'accord. Alors, comment posez-vous le diagnostic, professeur Tahri?
Alors, le diagnostic, on le pose chez un patient qui va venir pour une toux, une douleur thoracique, et parfois même chez des gros tabagiques où on fait au jour d'aujourd'hui le dépistage, des radios ou des scanners thoraciques de dépistage, on va trouver une lésion spiculée au niveau du poumon qui est assez typique et suspecte de cancer, avec ou sans symptômes, comme je vous ai expliqué. Et par la suite, on va faire une biopsie qui est écho ou scano-guidée ou par bronchoscopie, c'est-à-dire par une endoscopie bronchique. Et c'est cette biopsie-là qui va nous montrer qu'il s'agit d'un cancer et le type de cancer. Il faut savoir qu'il y a des cancers à petites cellules, des cancers non à petites cellules, et j'en passe. Il y a plein de types histologiques de cancers bronchiques. Mais les deux principaux, c'est les cancers bronchiques non à petites cellules et les cancers à petites cellules.
Alors, en termes de traitement, comment ça se passe, professeur Tahri?
Alors, le traitement a connu une grande évolution dans le cancer bronchique, dans la mesure où l'arsenal thérapeutique s'est étoffé ces dernières années avec l'immunothérapie.
Oui.
On a bien sûr la chimiothérapie, on a la thérapie ciblée, et actuellement, on a l'immunothérapie, on fait des tests génétiques, on recherche des cibles pour savoir s'il y a de l'addiction oncogénique ou pas. On cherche le EGFR, l'ALK, le ROS1 et le PD1, PDL1. Tout ça, c'est des cibles qu'on va chercher au niveau des cellules tumorales. Et si jamais on a ces cibles-là, on va donner des traitements qui vont au niveau de ces gènes ou au niveau de ces récepteurs pour les bloquer et avoir une réponse tumorale. Là, avec l'immunothérapie qu'on fait, surtout quand on a, c'est-à-dire la cible, c'est-à-dire le PD-L1 qui est élevé, on a de bonnes réponses, même si on a des maladies évoluées ou avancées. À côté du traitement systémique, on a un traitement local, ou loco-régional qu'on fait, qui est la chirurgie, mais ça suppose que le cancer est à un stade localisé, et la radiothérapie qu'on peut faire aussi en association avec la chirurgie ou avec les autres traitements.
D'accord, donc la chirurgie, c'est vraiment quand c'est localisé, c'est bien cela, professeur?
Oui, la chirurgie, malheureusement, ça ne se fait pas énormément, dans la mesure où la majorité des cancers, on les découvre à des stades avancés, voire métastatiques, où la chirurgie, malheureusement, n'est pas faisable, d'où l'intérêt, encore une fois, de faire un diagnostic précoce.
Donc, est-ce qu'on en guérit, professeur?
En fait, ça dépend des stades. Quand on est à des stades localisés, à un stade 1, un T1, T2, N0, c'est-à-dire des petites tumeurs qui sont localisées et on opère, on a des chances de guérison, de survie à 5 ans, puisque nous on parle de survie à 5 ans, qui sont supérieures à 70%. Et plus la maladie c'est-à-dire augmente et devient avancée, voire métastatique, plus les chances de survie, malheureusement, diminuent. Mais grâce au traitement systémique, le but, même dans les maladies métastatiques au jour d'aujourd'hui, c'est de passer à la chronicité, est passé à des maladies chroniques avec des traitements parfois qu'on continue, c'est-à-dire de longue durée pour avoir effectivement une rémission ou une stabilisation de la maladie. Et au jour d'aujourd'hui, grâce à ces nouvelles cibles thérapeutiques et grâce au traitement conventionnel, on a des malades à des stades métastatiques qui sont en vie après plusieurs années. Mais là, comme je l'explique à mes patients, ça devient comme le diabète ou une hypertension. On prend un traitement, c'est-à-dire de manière continue, et on l'arrête pas.
Est-ce qu'il faut éviter certaines choses lorsqu'on est malade?
Le tabac déjà. Malheureusement, on insistera aussi sur ça, sur la prévention primaire qui est l'arrêt du tabac, qui est la source encore majeure de ce cancer. Les études ont montré que les malades qui fument au cours du traitement ont des résultats moins bons que ceux qui arrêtent. Mmh. Et ceci dit, la majorité des patients qu'on voit, dès qu'ils savent qu'ils sont malades, ils arrêtent le tabagisme du jour au lendemain, alors qu'avant, c'était pour eux quasi impossible d'arrêter. Et malheureusement, à ce moment-là, c'est quand même un peu trop tard. Vraiment, l'arrêt du tabagisme.
D'accord.
D'accord.
Est-ce qu'on peut prévenir, justement, la maladie, professeur Tahri? Je rappelle que vous êtes professeur en oncologie, et quels seraient vos conseils, surtout à tous ces auditeurs qui nous écoutent?
Alors, mon conseil, je pense, on le rabâche tout le temps, mais malheureusement, l'addiction est tellement forte que ce message-là, parfois, il est un déni ou il n'est pas bien écouté. C'est l'arrêt du tabagisme et que les gens se fassent aider. Parce que c'est simple, nous qui ne sommes pas fumeurs, pour nous c'est un message assez simple à véhiculer, arrêt du tabac. Mais pour quelqu'un qui est fumeur, qui est addict, surtout pendant plusieurs années, c'est pas évident, on n'entend pas de cette oreille. Donc les gens fumeurs doivent absolument arrêter de fumer dans le plus bref délai. Et pour cela, maintenant, il y a des centres d'addictologie, des médecins psychiatres addictologues qui existent dans tout le territoire national, et c'est-à-dire qui aident et qui soutiennent les patients pour le sevrage avant que ce soit trop tard. Parce qu'une fois la maladie déclarée, comme je vous ai dit, c'est-à-dire même si on arrête à ce moment-là, le mal est déjà fait, on passe à une étape de traitement qui certes peut être efficace, mais il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit.
Effectivement, et on ne le répétera jamais assez. Merci beaucoup, professeur Ali Tahri. Je rappelle que vous êtes professeur en oncologie à Marrakech. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Mata Famille.
Merci, Marie.
À très bientôt, et c'est un entretien réécoutable, bien sûr, sur notre site medien.com.